Eh bien, nous allons entendre la parole de Dieu pour cette année. Alors, nous sommes au début d'une nouvelle année, une nouvelle année qui est civile, mais Dieu, lui, a fixé une nouvelle année qui a commencé en septembre, puisque Dieu a découpé un morceau de l'éternité et il l'a découpé en temps. Il l'a découpé en saisons et il en a fait un calendrier qui est ponctué par des fêtes. Des fêtes qui arrivent à certains moments de l'année, qui ont une portée prophétique, c'est-à-dire qu'elles annoncent quelque chose, qui ont un impact historique parce qu'elles ont marqué l'histoire de l'humanité. Et ce calendrier qui se trouve dans la parole de Dieu a été confié aux Juifs. Et jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif suit fidèlement le calendrier biblique. Et quand on s'intéresse à ce calendrier et que nous lisons la Bible, eh bien, nous pouvons savoir qu'il y a des choses qui vont arriver. Pas la peine d'aller voir une cartomancienne qui ne sait même pas ce qui va se passer dans sa vie. Non, lisons la parole de Dieu et à la lumière de ce que nous comprenons, eh bien, nous pouvons voir des événements futurs. Nous pouvons en connaître les temps. Nous pouvons en connaître l'impact et nous pouvons savoir où nous nous situons, je dirais, dans l'éternité. Mais il y a ce calendrier biblique qui est marqué par les fêtes juives de septembre-octobre. Et puis il y a le calendrier civil, le calendrier qui a été créé par les êtres humains, comme si un seul calendrier ne suffisait pas. Mais pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ben ils veulent leur propre calendrier. Donc, la société a créé son propre calendrier et la société française fonctionne d'après le calendrier civil qui commence donc le 1er janvier et qui finit le 31 décembre. Alors, on pourrait dire dans ces cas-là, pasteur, ça ne sert à rien que l'on fête le premier jour de l'année civile. Eh bien, il se trouve que c'est souvent un temps que l'on utilise pour chercher la face de Dieu. On a été habitué, ça fait partie de notre éducation, le 31, et puis ensuite, on sait qu'il y a un changement de saison. Et il est vrai que selon le calendrier biblique, qui est vers le mois de septembre-octobre, il y a des changements de saison et on peut s'attendre à ces changements de saison. Mais il se trouve que la Bible dit que celui qui cherche Dieu se laisse trouver par lui, c'est-à-dire que quand nous cherchons Dieu, il va nous dire certaines choses. Et nous sommes habitués à ce que le premier an soit l'annonce d'une nouvelle saison et très souvent les chrétiens cherchent Dieu pour cette nouvelle année civile. Donc le premier culte de l'année à l'église La Bonne Nouvelle est un culte auquel on veut participer parce qu'on croit que Dieu a une parole pour nous pour 2015. Une année civile mais quand même une nouvelle année avec un changement de saison. Et très souvent, nous avons utilisé cette parole du premier culte de l'année pour en faire comme un fil conducteur pendant tous ces mois jusqu'au 31 décembre, afin que nous puissions avoir pas simplement une homogénéité au sein de l'Église, la bonne nouvelle, mais un fil conducteur personnel. Vous voyez que Dieu a quelque chose à nous dire pour cette année 2015? Est-ce que vous croyez que le Seigneur est quelqu'un qui va parler à chaque personne ici? Amen. Alors regardez avec moi dans Éphésiens au chapitre 2. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas sans la parole de Dieu. Ça, c'est une des pires choses qui puisse arriver, que l'on soit sans la parole de Dieu. Ça, c'est... Quelquefois, vous savez, je trouve que je n'entends pas suffisamment la voix de Dieu et c'est quelque chose que je redoute plus que toute autre chose. Et dans ces cas-là, je dis, Seigneur, j'ai l'impression que je t'ai moins entendu, ou peut-être que j'en ai été moins consciente, parce que j'aime que Dieu me parle, et qu'il me parle à n'importe quel moment du jour, de la nuit, qu'il me parle de n'importe quelle manière, n'importe où. Je peux être dans ma voiture, je peux être en route vers un rendez-vous, je peux être en train d'étudier, je peux être en train de parler à quelqu'un ou que quelqu'un me parle, mais il faut que Dieu me parle. Dis à ton voisin, une parole de Dieu peut changer ta vie. Dis à ton autre voisin, une parole de Dieu peut changer le cours de ton histoire. Avez-vous trouvé Éphésiens chapitre 2 ? Alors, Éphésiens chapitre 2. Véronique, peut-être que tu veux t'asseoir à côté de nos amis pour les aider à trouver des passages. Il est bien que chacun ait sa Bible, que chacun puisse lire les Écritures pour lui-même. Il est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » J'ai une autre version qui dit en effet « C'est Dieu qui nous a formés. » Alors, nos parents ont formé notre corps, mais Dieu est celui qui nous a formés, nous, êtres spirituels. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ. Quand nous avons accepté Jésus, il nous a créés, il a fait de nous un être nouveau, un être neuf, parce que sa vie est venue en nous et a recréé notre être intérieur. Mais il est dit, il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour quelque chose, pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et il nous précise quelles sont ces bonnes actions. Il nous est dit plus tard, à la fin de la phrase, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors oui, on entend très souvent parler de bonnes œuvres, de bonnes actions. Mais Dieu a sa définition de ce qu'est une bonne action. Une bonne action, c'est celle qu'il t'a préparée d'avance. Quand nous regardons l'année 2015 qui est devant nous, eh bien, nous, d'après ce verset, nous sommes certains que Dieu nous a créé et a créé cette année 2015 avec plein de bonnes actions préparées pour nous. Dieu a préparé cette année 2015. Et aussi simplement que je puisse te le dire, ça n'est pas le titre de mon message, mais ça aurait pu, c'est « Tu n'as pas à inventer l'année 2015 ». La Bible dit « Elle a été préparée pour toi ». Tu n'as pas à l'inventer, parce que tu ne peux pas créer ton futur. Tu ne peux même pas penser ton futur. Tu peux avoir un aperçu de ton futur en fonction des dons qui sont en toi. Tu peux avoir un aperçu de ton futur en fonction de ce que Dieu t'a dit, mais à vrai dire, tu es loin d'imaginer ce futur dans la proportion qui est celle qui est dans le cœur de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu nous a préparés pour que nous menions de bonnes actions qu'il a lui-même préparées. Dieu a pensé cette année 2015 pour toi. Dieu a pensé cette année 2015 pour l'Église, la bonne nouvelle. Dieu a pensé cette année 2015 pour ta famille, pour ton couple. Et j'ai une question, est-ce que Dieu a déjà raté quelque chose ? Donc ma question est, comment peux-tu regarder cette année 2015 ? Avec joie, avec confiance, avec assurance. Vous savez, dans le corps de Christ, il y a des prophètes, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui sont équipés par Dieu pour avoir un aperçu plus précis concernant le futur. Et un des éléments qui caractérise l'onction de prophète, c'est l'autorité, le degré d'inspiration et l'autorité par laquelle il parle de la part de Dieu. Kenneth Copeland en est un, et il a dit ceci, Qu'en est-il de 2015? La parole du Seigneur est venue à moi. 2015 est l'année du vainqueur. Nous allons marcher dans les plus grandes victoires surnaturelles jamais vues ou entendues que produit la foi qui vainc. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. En référence à 1 Jean 5, 4, 5. Et puis il y a un autre prophète qui s'appelle Jerry Savell, qui est le papa de Terry Savell, qui est déjà venu nous rendre visite. Et voici la parole que le Seigneur lui a donnée. « Vivre la plus grande gloire, c'est encore mon plan. Et vous verrez que le grand Je suis visitera votre pays. » Et des démonstrations de ma puissance comme jamais auparavant, et des démonstrations de ma puissance d'une rive à l'autre, des provisions surnaturelles et aussi de plus grandes percées. Oui, c'est là mon plan et la volonté pour vous. Les puissances des ténèbres ne tiendront plus debout, car je vais leur montrer la force de ma main droite. J'obtiendrai ce que je veux et tous le verront. Aucune puissance n'est plus grande ou égale à moi. Mon peuple se lèvera et prendra sa place, et aucun ennemi ne l'empêchera de terminer sa course. Oui, vous le verrez, 2015 sera une année qui marquera l'histoire. Dis à ton voisin, quelque chose de grand va m'arriver. Quelque chose de bon m'est réservé. J'aimerais que vous regardiez avec moi dans Deutéronome au chapitre 30. Je vais vous dire, 2014 a été une année bénie, mais 2015 est une année qui va nous donner de voir les bénédictions dans une plus grande dimension. J'ai une telle expectative pour 2015. J'ai une telle assurance pour 2015. J'ai hâte d'être arrivé au 31 décembre pour dire « Waouh ! Vois ce que le Seigneur a fait !» Deutéronome chapitre 30, vous l'avez trouvé, il est dit au verset 29 « Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins. » Vous croyez que le ciel entend ce que Dieu dit concernant la terre? Chapitre 30, verset 29. Ah, alors attendez. Je lis d'ici directement, mais 19, me dit-on. C'est bien? C'est ça? Alors, attendez. Alors, chapitre 31, pardon. Deutéronome 30, ah non, c'est 30, attends, en plus je l'ai sous les yeux, et 19, c'est ça. « Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins. » C'est-à-dire que quand Dieu parle, il aime avoir des témoins. Bien sûr, Dieu parle et il dit sur terre, et précision, la Bible nous dit dans Ésaïe que Dieu annonce dès le départ la fin. Il y a beaucoup qui peuvent dire, quand quelque chose s'est passé, « Ah ben je te l'avais dit, oui mais ça, tout le monde peut dire ce qui s'est passé. Ah ben je te l'avais dit, ouais mais... » Non, non, ce qui fait vraiment quelque chose de prophétique, c'est d'annoncer dès le départ, ce que va être la fin. Et ça, c'est notre Dieu. La Bible nous dit que la fin, jusque le dernier chapitre du dernier livre de la Bible appelé l'Apocalypse, parce que Apocalypsis en grec veut dire révélation. Donc, voilà, dans certaines Bibles, c'est le livre de la révélation. Oui, le livre de la révélation de Dieu, le livre de la révélation de ce qui va se passer dans le futur, le livre de la révélation de l'Église, le livre de la révélation d'Israël, etc. Oui, mais nous pouvons lire ce que sera la fin parce qu'elle a été annoncée dès le départ. Tu peux lire la fin. Lis le dernier livre, les derniers chapitres de ce livre-là, et tu verras que même jusque-là, la fin est annoncée. Pas la fin du monde, telle que certaines sectes veulent l'annoncer, mais la fin de dispensation avant que l'on passe dans l'éternité. Et il nous est dit ici que Dieu annonce quelque chose et il prend des témoins. Il dit, je vous l'annonce à vous sur terre et vous allez être les témoins que ce que je dis est vrai. Mais la Bible dit qu'il l'annonce au ciel. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà dans la présence de Dieu entendent les mêmes paroles que nous entendons. Et Dieu met encore son trône sur la sellette et il dit à ceux qui sont au ciel, et il dit, eh bien, et vous ici qui êtes ici avec moi, vous allez entendre ce que je dis à ceux qui sont en bas sur la terre et vous allez voir que ma parole est éprouvée et vraie. Et puis il continue en disant, je place devant vous. Est-ce que quelqu'un est ici? Donc la Bible dit que Dieu a placé quelque chose devant toi. Et ce n'est pas la nuque de ton voisin. Il dit, je place devant vous la vie et la bénédiction. D'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Et ensuite il dit, choisissez donc la vie. Afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Ici, c'est une parole qui est absolument magnifique. Parce que le Seigneur, tu sais, il ne déresponsabilise personne. Quelquefois, les gens parlent de la souveraineté de Dieu en disant, « Oh oui, mais Inch'Allah, c'est la même chose. Eh bien, que sera, sera, ce qui m'arrivera, m'arrivera, Dieu est souverain. » C'est-à-dire, je suis victime des circonstances. Mais ça n'est pas du tout la pensée de Dieu, ça n'est pas du tout la pensée de la Bible. Parce que oui, Dieu est souverain et dans sa souveraineté, il s'est rendu capable d'agir sur terre uniquement que si nous coopérons avec lui. Parce que Dieu est souverain, il a choisi de ne pas se passer de nous. Et donc Dieu ne veut pas que nous vivions comme des robots, Dieu ne veut pas que nous vivions comme des victimes sur cette terre, Dieu veut que nous exercions notre libre arbitre parce qu'il nous a donné des choix à faire. Dieu dit, je place devant toi la vie et la bénédiction. Et il dit, je place la mort et la malédiction, ce qui me fait dire que si tu as choisi la vie, tu ne peux pas être sous la malédiction. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas utiliser quelque chose qui appartient à la malédiction comme la maladie pour t'apprendre la vie, ça ne peut pas ça. Ou alors Dieu est schizophrène, mais ce n'est pas possible. La vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. On ne peut pas avoir choisi la vie de Dieu et en même temps croire qu'on est encore sous la malédiction. Le cycle de la malédiction prend fin dans ta vie quand tu as choisi la vie de Dieu. Et là, la bénédiction commence. Bon, dans cet enthousiasme général, je continue. Et le Seigneur nous dit, au cas où tu ne saurais pas que choisir, il dit, choisis la vie. Choisis la vie, choisis ma vie. Choisis la bénédiction. Alors, on pourrait dire, ben, ça, c'est simple. Ça semble très simple, c'est-à-dire que si je choisis Christ, alors automatiquement je suis sous la bénédiction. Dans un sens, c'est vrai, c'est ce qui nous est dit dans Éphésiens au chapitre 1, verset 3. Il est dit, louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ. Ah, ben voilà, Dieu nous a bénis dans notre union avec le Christ, en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. On pourrait dire, ben voilà, si je choisis Christ, automatiquement, la bénédiction de Dieu est sur ma vie. Tu sais ce que ça veut dire, la bénédiction de Dieu est sur ta vie? Ça veut dire que tout ce que tu entreprends en son nom prospère. Malgré toi, tu ne fabriques pas, tu es au bon endroit où Dieu te veut et la puissance de Dieu est là pour manifester la vie dans tout ce que tu entreprends. Ça veut dire quoi? La prospérité à tous égards. Au point que les gens te voient vivre et disent, mais comment ça s'est qu'il réussit celui-là? Tout ce qu'il fait réussit. C'est on sait qui il est. C'est ce que les gens avaient des questions vis-à-vis de Jésus, disaient, mais qui est-il, n'est-ce pas là, le fils de Joseph? C'est-à-dire qu'il ne devrait jamais dire ce qu'il dit, ni ne devrait jamais faire ce qu'il fait. Et voilà ce que les gens disent, ce que Dieu veut que les autres disent de toi, mais d'où il sort celui-là? Comment se fait-il qu'il réussisse? Comment se fait-il qu'il se relève? Comment se fait-il qu'il ne croule pas? Comment se fait-il qu'il garde l'espoir? Comment se fait-il que les portes s'ouvrent devant lui? Comment se fait-il qu'on veuille l'aider? Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Et la Bible dit que oui, le fait que nous soyons unis à Christ, c'est-à-dire que nous partagions sa vie quand nous avons accepté Jésus, la vie qui est en Christ, cette qualité de vie est venue en nous et a fait de nous un avec Jésus-Christ. Et la Bible dit rien que le fait que tu sois une nouvelle créature, rien que le fait que tu sois un chrétien né de nouveau, fait que déjà tu es sous la bénédiction. On dirait oui, pasteur. Il y a un autre verset que j'aimerais vous montrer. Proverbe chapitre 28, verset 20, il est dit « Une personne fidèle sera couverte de bénédictions. » Un homme loyal est comblé de bénédictions. Tu sais, il y a peu de chrétiens qui aspirent à vivre couverts de bénédictions. Qui aspirent à vivre comblés de bénédictions. Parce qu'on est tellement habitué à se restreindre. On est tellement habitué à nous dire « Non, ça n'est pas pour toi. Non, tu ne peux pas. Ah non !» Pas toi, mais bien sûr que non, tu ne peux pas faire cela. Qu'on accepte d'être béni dans un domaine de notre vie, il y a des gens qui disent « Ah ouais, moi tu sais, je suis béni dans ma santé. Hey, gloire à Dieu, j'ai une santé forte, j'ai un corps qui est fort, je ne sens même pas que j'ai un corps sur moi. » Mais on regarde leur vie matérielle et c'est la cata de chez la cata. Il y en a d'autres qui disent « Ah ben moi, alors je suis béni matériellement, c'est bien simple, je ne sais même pas que faire de mon argent, je donne ici et là parce que ben, mes besoins sont pourvus, mes désirs sont comblés. » Oui, mais alors question relation, c'est la cata, ils sont seuls. Et la Bible nous dit que Dieu, quand il a pensé à la bénédiction sur notre vie, il a dit « comblé ». D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, version Nouveau Testament, dans 3 Jean 1. Bien-aimé, je souhaite, ça c'est le Saint-Esprit qui parle. Donc le Père pense la même chose, Jésus pense la même chose. Il dit, bien-aimé, je souhaite. Waouh, Dieu qui veut quelque chose pour moi. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire, je souhaite que tu sois couvert de bénédictions. Ce qui veut dire que la bénédiction ne peut pas dépendre de mon compte en banque, ne peut pas dépendre de ce que les médecins me disent, ne peut pas dépendre de mon employeur, ne peut pas dépendre de ce que mes ancêtres m'ont légué dans mon ADN. Ma qualité de vie dépend de ce que mon Dieu a dit. Et mon Dieu a dit que celui qui est uni avec Jésus-Christ, il veut le combler de bénédictions. Il veut qu'il prospère à tous égards comme prospère l'état de son âme. Et ici, alors, dans Éphésiens au chapitre 3, il nous est donné la pensée de Dieu quand il est dit qu'il veut que nous prospérions à tous égards. Examine ta vie. Dans quel domaine de ta vie vois-tu la bénédiction de Dieu opérationnelle, agissante? Et dans quel domaine de ta vie ne la vois-tu pas? Mais nous sommes tellement habitués, l'être humain a cette capacité de s'adapter. Et même de rester dans l'inconfort pour le transformer en style de vie. Ici, il nous est dit dans, au chapitre 3, et alors j'ai retiré tous les versets, va chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, à peine plus que ce que tu demandes ou penses. C'est ce qu'il est écrit ? Il est dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en toi, pas dans le pasteur, en toi, qui peut faire presque comme ton employeur te l'a dit. Non, comme ton médecin te l'a dit. Comme ta famille a toujours dit. Il est dit, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment. Tu sais pourquoi infiniment ? Parce que Dieu est infini. Dieu veut t'amener dans son infini. Infiniment. Au-delà de ce que tu demandes, ce qui veut dire, Dieu t'invite à lui demander. Et quand tu demandes à Dieu quelque chose, il veut faire infiniment au-delà de ce que tu as demandé ou même pensé. Se pourrait-il que Dieu sache ce que tu penses ? Et Dieu dit, il veut faire au-delà, infiniment au-delà. Maintenant, on pourrait se dire, ben c'est bien. Mais pourtant, il y a quand même peu de chrétiens qui vivent dans cet infiniment au-delà. Je vois peu de chrétiens autour de moi qui vivent couverts de bénédictions. Je vois peu de gens autour de moi qui vivent prospères à tous égards. Alors ma question est, où est-ce que le bât blesse ? Est-ce que Dieu ment ? Ou est-ce qu'il faudrait peut-être comprendre ce qu'il nous faut changer pour que 2015 soit conformément au plan que Dieu a dans son cœur pour nous. Regardez avec moi dans le psaume au chapitre 78, infiniment au-delà. Ma question est, as-tu déjà vu Dieu envahir ta vie ? Moi je vais vous dire, l'année dernière... pour l'anniversaire de ma sœur, elle est donc son cadeau de Noël était l'amener en Israël. Pas cadeau de Noël, anniversaire. C'est son cadeau d'anniversaire était de l'amener en Israël. Et ce voyage-là, vous savez, vous pouvez organiser un voyage. Vous pouvez le prévoir. Vous pouvez chercher sur Internet. Et personnellement, quand je vais quelque part en vacances, c'est pour une conférence ou ça m'est égal, donne-moi l'adresse du lieu de la réunion, j'y vais, voilà. Mais si je vais en vacances, j'aime savoir ce qu'il y a autour de moi. J'ai horreur de rater quelque chose. C'est si l'autre, il va à Rome et il loupe le Colisée. J'aime savoir où vont être les meilleurs restaurants. Pas pour touristes, les locaux. J'aime savoir quel est le musée qui va me donner d'apprécier cette région. J'aime rencontrer les gens. Et donc, on prépare un voyage. Mais tu sais, quand Dieu envahit ton voyage, tu vas découvrir des choses que tu n'aurais jamais découvertes sur Internet. Tu vas rencontrer des gens. Tu vas vivre, il va y avoir des rendez-vous divins. Il va y avoir un timing qui va être parfait. Et Dieu, c'est bien simple, une semaine après, quand on est revenu en France, elle n'avait toujours pas atterri. Je me rappelle la même chose avec Tristan l'année dernière, pour son voyage, quand il m'a accompagné à Dallas pour cette conférence. Tu te rappelles ? Mais c'était quelque chose. Bon, d'accord, Tristan allait être logé dans une famille. Bon, merci la famille, ils étaient vraiment accueillants, gentils. Mais Dieu a fait tellement au-delà. Le niveau de la conférence, Tristan était assis au second rang. Il y avait des pasteurs qui étaient là dans le ministère depuis des lustres, ils étaient assis au fond de la salle. Tristan, il n'a même pas mis un pied encore. Il n'a pas mis un pied à l'étrier. Il s'est retrouvé à voyager dans un jet privé. Mais vous savez quel est l'amour que Tristan a pour l'aviation? Ça a mis une vision. C'était la première fois que tu es entré dans un jet privé, non? Et vous imaginez Tristan se rendre à la Réunion en Harley Davidson. Tu te rappelles de ça? Mais ça, c'était pas prévu. Alors vous dites, oh, mais je m'en moque. Oui, moi aussi, je m'en moque. Franchement, je m'en moque de tous ces trucs-là. Mais pour Tristan, c'était la cerise. C'était pas la cerise, c'était le paquet de cerises sur le gâteau. C'était Dieu qui était en train de le combler de bénédictions. Voilà ce que Dieu veut pour toi en 2015. Alors tu vas dire, waouh, super, parce que je suis uni à Christ, je suis candidat à la bénédiction. Psaume 78, est-ce que vous l'avez trouvé? Au verset 41, il est dit, alors il est parlé là du peuple d'Israël, mais le principe est valable pour nous tous. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Une autre version dit, ils recommencèrent à provoquer Dieu, à offenser le Saint d'Israël. Et une autre version dit, oui, ils tournèrent leur dos et tentèrent Dieu, et limitèrent le Saint d'Israël. Alors comment se fait-il que tous les chrétiens sont sous la bénédiction? De par leur union avec Christ, nous partageons la même vie, eh bien nous sommes sous la bénédiction. La Bible dit « nous avons choisi ». Nous avons choisi la vie, donc nous avons choisi la bénédiction et pourtant on ne voit pas tout ce que l'on devrait voir. Quelle est la réponse? Eh bien, une des réponses, c'est que nous limitons Dieu. Tu sais, il est possible de... On pense très souvent, ah, c'est le diable, c'est l'ennemi de mon âme qui limite ce que Dieu peut faire dans ma vie, veut faire dans ma vie. Tu sais, la Bible dit que cet ennemi-là, il est vaincu. Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de chrétiens qui disent oh, « le diable, ce qu'il a fait ». Non mais attends, un ennemi qui est vaincu, laisse-le à sa place. Un ennemi qui est vaincu ne peut pas, il ne peut pas empêcher Dieu de faire ce qu'il veut. Donc ma question est, comment se fait-il que Dieu, qui a établi sa volonté clairement dans la parole de Dieu, il est dit qu'il veut nous combler de bénédictions. Il s'est donné les moyens de faire venir à nous la bénédiction. Nous qui n'avions pas d'alliance avec lui, pour ceux qui ne faisaient pas partie du peuple juif. Et Dieu l'a dit encore, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et ici, il nous a dit, mais il est impossible à Dieu de nous bénir tel que lui le pense. Vous savez, toutes ces choses, toutes ces actions bonnes qu'il a préparées pour nous, qu'il a préparées d'avance, le bon plan que Dieu a préparé d'avance pour 2015, se pourrait-il que Dieu soit limité de le matérialiser dans ta vie? Parce que si nous répondons oui à cette question, alors il va falloir faire des choix. Ici, il nous est dit qu'ils limitèrent Dieu. Tu sais à quel point c'est frustrant de limiter quelqu'un? Limiter quelqu'un à te bénir. Moi, je me rappelle avant, notre mère, quand on voulait lui offrir un cadeau, c'était toute une histoire. Parce que c'était toujours trop, et ce n'était pas la peine de penser à elle, il n'y avait qu'à penser à d'autres, et on lui disait, mais maman, mais on est grand, d'abord on a envie de te l'offrir, et puis si on a envie de t'offrir ça, c'est que c'est bien pour toi, et tu devrais le recevoir. C'était tout un truc. Et finalement, on a dit, tant pis pour toi. Tant pis pour toi, mais c'était frustrant, c'est énervant. c'est agaçant quand tu veux bénir quelqu'un et que cette personne t'empêche de le faire. Et moi, je me dis que si j'ai expérimenté... Alors, du coup, elle a accepté 3 chemisiers pour... Elle a appris que maintenant, elle ne dit plus non. Si on dit, tiens maman, tiens, est-ce que tu veux bien cela? Et tiens, regarde, celui-là, il est bien pour toi. Avant, au bout du premier, elle aurait dit, non, je n'ai pas besoin. On dit, on s'en moque de ce que tu as besoin ou pas, ce n'est pas la question. Hein? Et puis, on voit un deuxième, on dit, oh maman, regarde celui-là comme il est bien, essaie-le. On dit, tiens maman, essaie celui-là, on va à la caisse, on dit, tenez, on prend ces 3. Oui, vous savez, c'est bien de penser aux autres. Mais Dieu a pensé à toi. Et Dieu est assez grand pour penser à ceux auxquels tu penses et pour penser à toi en même temps. Mais la Bible dit que l'être humain a une telle capacité de choix qu'il peut arriver à limiter ce que Dieu veut faire dans sa vie. Ben moi, je vais vous dire, 2015, je le sens extrêmement bon dans mon cœur. Et il n'est pas question que je limite Dieu. Alors, limiter Dieu, eh bien, ça n'est qu'une question de choix. Tu te rappelles que quand Jésus est allé dans sa ville natale, la Bible nous dit à la fin du chapitre 5 de Marc qu'il n'a pu faire aucun miracle, si ce n'est guérir quelques petites maladies. Jésus s'est trouvé dans une situation où il était là. Il entendait la voix de Dieu. Il connaissait la volonté du Père de guérir les malades. Il était à la disposition du Père. Et on sait qu'ailleurs, la Bible nous dit qu'il a guéri tous les malades. Vous imaginez quand dans sa ville natale, il allait dans les rues, il allait rendre visite à ses voisins. Il voulait les guérir. Et ça vous arrivera si vous m'écoutez. Il voulait les guérir et il voyait un tel et il se rappelait ce petit collègue de travail là qui avait fait une telle mauvaise chute qu'il s'était déboîté la hanche et depuis il boitait et Jésus était rempli de compassion. Il voulait guérir celui qui était devant Jésus. Jésus le connaissait. Et puis il se rappelait aussi qu'il y avait cette dame qui était là, qui souffrait d'une bronchite chronique depuis longtemps. Elle n'arrivait plus à travailler. Ses amis en avaient assez de l'entendre tousser. Elle était seule. Et Jésus était là et il voulait la guérir. Il savait que le Père voulait manifester son amour, voulait manifester sa puissance. Et la Bible nous dit que Jésus n'a pu faire là aucun miracle. Est-ce que c'est parce que Dieu ne voulait pas? Est-ce que c'est parce que Dieu se moquait de ses malades? Est-ce que c'est parce que Dieu disait, oh non, Jésus aimait ces gens. En plus de sa ville natale, il devait se dire, mais lui, j'ai grandi avec lui. J'aimerais le voir guéri. Qu'est-ce que Dieu pense à ton sujet? Qu'est-ce que Jésus pense à ton sujet? La Bible nous dit que par son esprit, il est ici. La question est-ce que Dieu peut faire ce qu'il veut dans ta vie en 2015? Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut faire ce qu'il veut dans ta vie? Et tu sais ça? Ton père ne peut pas répondre à ta place. Ta mère ne peut pas répondre à ta place. Ta femme ne peut pas répondre à ta place. Ton mari ne peut pas répondre à ta place. Ton voisin ne peut pas répondre à ta place. Et toi, en tant que parent, tu ne peux pas répondre à la place de tes enfants. Choix, choix, choix. Alors, la question est, comment peut-on limiter Dieu? Parce que c'est quand même, si on dit, oulala Seigneur, ouvre les vannes du ciel. Ouvre les vannes du ciel pour moi en 2015. Je sais que je suis béni, mais il ne s'agit pas de le savoir. Je veux voir la bénédiction opérationnelle, opérante dans ma vie. Je veux qu'elle soit agissante, je veux qu'elle soit matérialisée. Pas simplement dans tel domaine, Seigneur. Pas simplement dans tel autre domaine, dans tout les domaines de ma vie, comblés, 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 comblés de bénédictions. La Bible nous dit que Dieu, quand il a parlé au Père des croyants, dans le naturel et dans le spirituel. Quand il a parlé à Abraham, il a dit, tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Imaginez quelqu'un qui est comblé de bénédiction au point qu'il peut bénir tous ceux que Dieu lui permet de rencontrer. Waouh, vous savez, ton quartier serait changé, ta famille serait changée, cette ville serait changée. Mais très souvent, les chrétiens méprisent la bénédiction parce qu'il y a un faux enseignement qui fait croire que Dieu nous veut pauvres, nous veut dans le manque. Eh bien, Jésus est notre exemple, il n'a jamais été pauvre, il n'a jamais été dans le manque. La Bible nous dit que la pauvreté et le manque font partie de la malédiction. Et la Bible dit, si tu as choisi la vie, tu as choisi la bénédiction. Et la bénédiction, c'est la prospérité à tous égards. Moi, je suis prête pour 2015. Donc, la question est, comment peut-on limiter Dieu? Le premier domaine où on peut limiter Dieu, c'est dans nos objectifs. Si pour cette année 2015, et je vous encourage à le faire, quelquefois, on l'a fait ici, lors du premier culte de l'année, on a pris un papier et on a écrit tous les objectifs que l'on veut voir réalisés, tous les objectifs que l'on met devant Dieu. C'est-à-dire, peut-être que tu dis, ben, moi, mon objectif, c'est d'acheter ma maison. Mon objectif, c'est de remplir ma maison de nouveaux meubles. Mon objectif, c'est d'ajouter une chambre pour accueillir des gens. Mon objectif, c'est de changer de travail. Mon objectif, c'est de gagner de temps. Mon objectif, c'est de vivre dans la santé cette année. Mon objectif, c'est peut-être de porter un appareil dentaire. Mon objectif, c'est d'apprendre à cuisiner, tiens. Quel que soit l'objectif. Mais est-ce que les objectifs que tu places devant Dieu pour 2015 sont des objectifs qui sont suffisamment grands pour Dieu? Si dans les objectifs que tu t'es fixés, les buts que tu t'es fixés pour 2015, tu peux les réaliser par ton budget, alors tu ne verras pas, tu limites Dieu. Tu limites Dieu. Si les buts que tu as pour 2015 sont trop petits, alors tu limites Dieu. Tu sais, si Dieu t'a appelé à être numéro 9, alors ne vis pas comme un numéro 5. Les objectifs qui se traduisent en chiffres, qui se traduisent en mètres carrés, qui se traduisent en euros, qui se traduisent en nombre de comptes, qui se traduisent en nombre de pièces. Je crois qu'on est deux prédicatrices ici ce matin. Hein. Alors, les objectifs. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 29, verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation ou de vision, le peuple est sans frein, c'est-à-dire qu'il ne sait pas où il va. » Tu as déjà vu un camion sans frein, un véhicule qui n'a plus de frein, ben on perd le contrôle. Il y a beaucoup de gens dans cette vie qui ont perdu le contrôle de leur vie, qui ne savent pas où ils vont, qui sont portés comme une feuille étant par les circonstances de la vie, comme une feuille est emportée par le vent, parce qu'ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'objectif, ils ne savent pas où ils veulent aller, ils ne savent pas où Dieu veut les amener. Quels sont tes objectifs pour 2015? Beaucoup de gens s'arrêtent là où ils se sentent à l'aise. Beaucoup s'arrêtent à une zone de confort. Oh ben tu sais, moi j'ai suffisamment de place dans ma maison pour accueillir des gens. J'ai suffisamment peut-être de revenus pour inviter des personnes à ma table. Donc ça me suffit. Ce n'est pas ainsi qu'il faut penser. C'est qu'est-ce que Dieu veut? Dieu voudrait-il que tu aies plus de gens dans ta vie? Si tu estimes que tu as trop de pièces dans ta maison, pourquoi ne crois-tu pas pour aider quelqu'un à ajouter une autre pièce à sa maison? Pourquoi ne crois-tu pas pour remplir la maison de quelqu'un de meubles? Mais vous savez, la bénédiction, très souvent, elle s'arrête à notre vie. Moi, moi, moi. Si Dieu discerne ce motif dans notre cœur, jamais on ne verra la bénédiction se matérialiser. La bénédiction doit toujours avoir un rapport avec les autres, avec notre monde. Le deuxième domaine où on peut limiter Dieu, c'est une question de choix, bien c'est par nos paroles. Par nos paroles. On se rappelle dans Marc chapitre 11, verset 22-23, je vous le lis. Jésus dit, je vous le déclare, c'est la vérité, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela arrivera pour lui. J'ai une question. En fonction de ce que la parole de Dieu enseigne, la Bible dit que nos paroles sont un matériau de construction. Crois-tu que tu as ce que tu dis ? C'est-à-dire que si tu crois que tu as ce que tu dis, tu devrais aligner tes paroles sur les objectifs que Dieu a placés devant toi pour 2015. Beaucoup parlent de ce qu'ils n'ont pas. « Oh, j'ai pas ci, je n'ai pas cela. » Et continue à parler comme cela et tu vas t'enraciner dans ce manque. La Bible dit que nos paroles, eh bien, ont l'effet d'un thermostat. Beaucoup se servent de leurs paroles comme d'un thermomètre, c'est-à-dire je prends la température. Oh là là, j'ai pas assez à la fin du mois. Oh, je ne peux pas faire cela à cause de ma santé. Ou je ne peux pas faire cela parce que je ne connais pas telle personne. Ou il faudrait que j'aie tel travail. Et cela, par tes paroles, tu ne fais que parler de ce qui est un fait. Mais si tu veux que tes faits changent, il faut que tu changes tes paroles. Quand par exemple à la maison je veux un degré de plus, eh bien je ne me contente pas de prendre la température, il fait froid ici, il fait froid ici. Vous avez remarqué comme il fait froid ici? Non, si je veux que les choses changent, eh bien je détermine ce que je veux. Tiens, je veux 20 degrés dans cette pièce. Et par ce choix, je sais que toute la température va aller vers ce 20 degrés. Il y a tout un mécanisme, il y a toute une technologie qui va être là pour que ce soit à 20 degrés. La Bible dit que tes paroles sont pareilles. Tu fixes ton salaire et tu dis, c'est ça. Tu dis, le jour où je prendrai ma retraite, on sait que c'est un mot qui n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu, mais dans ce monde, le jour où, eh bien, voilà quels seront mes revenus mensuels. Et tu n'as pas à te demander comment ça va se faire, tu mets ta parole dans ton futur. La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Ça n'est pas ton employeur qui fixe ta retraite. Ça n'est pas tes années de ceci et tes années de cela, d'autant plus que quand on entend tout ce qui s'écroule, il vaut mieux pas compter sur eux. Mais comment est-il possible de limiter Dieu? Par nos paroles, je ne peux pas. Non, la santé, ça n'est pas pour moi. Oh, tu sais, on a toujours été malade dans la famille. Oh, bah, tu sais, avant de partir en vacances, il y a toujours un enfant qui est malade. Et on limite Dieu par nos paroles. La volonté de Dieu ne change pas. Il désire toujours ardemment nous bénir, mais il est limité par nos objectifs trop petits, ce que l'on peut remplir sans lui, ce que l'on peut réaliser avec nos moyens, nos capacités, notre temps, nos talents, nos connexions, nos relations. Et Dieu ne veut pas de cela. Dieu veut que nous ayons une relation avec lui, qu'il nous montre les objectifs qu'il a pour nous cette année et que nos paroles s'alignent sur la volonté de Dieu. Et ça, ce sont les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et puis enfin, eh bien, il est possible de limiter Dieu, Jacques nous le dit, par au chapitre 1, verset 22, il est dit « Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu, mettez-la réellement en pratique. » Jacques 2, 17 dit « Il en est ainsi de la foi, si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. » Alors, la question est, si Dieu t'a dit de faire quelque chose, tu as un choix à faire. Ou bien tu vas pratiquer ce qu'il te dit de faire, tu vas faire ce qu'il te dit de faire, ou alors tu peux choisir de dire, ben non, moi je ne vais pas le faire. Mais choisir de ne pas faire ce que Dieu dit limite Dieu dans ta vie. Limite Dieu dans ta vie. Alors, je suis sûre qu'au cours de cette année, j'aurai l'occasion de revenir sur ces différents points. Mais en tout cas, je veux les placer devant vous et vous poser la question. Nous savons que Dieu veut agir, veut faire des démonstrations de puissance, veut se manifester de manière surnaturelle au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ma question, quels sont tes objectifs pour 2015? Est-ce que ce sont les objectifs de Dieu? Est-ce qu'ils sont suffisamment grands pour que tu aies besoin de lui? Deuxièmement, que dis-tu? Que dis-tu concernant Dieu? Certains disent « ils peuvent, mais ils ne veulent pas ». Non, il faut que tu saches que Dieu peut et qu'il veut agir en ta faveur. Qu'est-ce que tu dis concernant ton Dieu? Que dis-tu de toi-même? Si tu dis « je n'en ai pas besoin parce que je ne suis pas digne », tu limites Dieu, tu limites son intervention. Qui es-tu à tes propres yeux? Tu sais, Dieu voulait donner un grand territoire au peuple des Hébreux. Et puis quand ils ont vu les géants qui étaient sur ce territoire, c'est-à-dire les impossibilités qui étaient devant eux, eh bien, le peuple hébreu, au lieu de dire « Dieu nous le donne, c'est à nous et il va s'occuper des impossibilités », il connaît les problèmes, il connaît les obstacles, il connaît le nombre d'empêchements, mais il va s'en occuper. Ils ont dit, oh, ces obstacles sont trop grands pour nous. Et ils ont continué en disant, nous sommes comme des sauterelles face à ces géants de problèmes. Résultat, Dieu voulait qu'ils entrent dans cette terre promise. Dieu voulait qu'ils prospèrent dans cette terre qui était préparée pour eux. Toi, tu ne vois pas ce que Dieu t'a préparé, mais lui voit ce qu'il t'a préparé. Et il se réjouit de ce qu'il va pouvoir te donner. Mais il ne pourra pas le faire sans toi. Résultat, au lieu d'entrer dans la terre promise, au lieu d'être au bénéfice du plan de Dieu, au lieu de voir une démonstration de puissance, au lieu de voir les géants tomber devant eux, c'est eux qui sont tombés à genoux devant leurs obstacles. Résultat, ils sont morts sans voir les promesses de Dieu. Pourquoi? Dans l'incrédulité. Il y en a deux qui ont dit, Josué et Caleb, qui ont dit, ils ont vu les mêmes problèmes, ils ont vu les mêmes géants, ils étaient devant les mêmes murs, ils avaient les mêmes manques, ils étaient dans le même désir et ils avaient les mêmes paroles de Dieu. Et ces deux ont dit, eh bien, nous croyons que celui qui nous a promis ces choses-là va les accomplir pour nous. Et la Bible nous dit que résultat, sur plus de 2 millions de personnes, 2 personnes sont rentrées dans cette terre promise. 2. La différence, une question de choix. Il y a certains qui ont agi en fonction de ce qu'ils croyaient, c'est-à-dire ils se sont réjouis en Dieu. Ils se sont réjouis en celui qui est fidèle. Ils se sont laissés persuader que ce que Dieu avait dit n'est que la vérité, que Dieu ne raconte pas des bobards, que Dieu ne tente pas en vain, Dieu ne met pas une carotte devant nous pour nous faire avancer en disant « illusion, illusion ». Qui est Dieu pour toi et qui es-tu à tes propres yeux? 2015, une année brillante, une année puissante pour l'Église. Pour l'Église. Mauvaise surprise pour le monde, mais bonne surprise pour l'Église. La seule condition, ne limite pas Dieu. Et ça, c'est le titre de mon message. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Laisse Dieu faire ce qu'il veut dire. Tu sais, quelquefois, parler la parole de Dieu, eh bien, ne procure pas beaucoup d'émotions comme la joie, etc. Quelquefois, face à tes géants, tu parles la parole de Dieu et c'est froid et ça semble plat. Mais la parole de Dieu n'a pas besoin de tes émotions pour marcher. Qu'est-ce que Dieu dit à un malade ? Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Qu'est-ce que Dieu dit à celui qui est dans le manque ? Je suis l'Éternel qui pourvoit. Qu'est-ce que Dieu dit à quelqu'un qui est seul ? Je t'ai donné une famille. Dieu a répondu à tous nos besoins à la croix. Et il n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir te montrer à quel point il est bon pour toi. Alors, je vous propose que nous reprenions ce chant-là. Et ceux qui ont besoin de guérison, on va passer tout de suite à du concret. Eh bien, je vais vous inviter à garder les yeux sur le Seigneur. Vous viendrez ici et puis on va prier pour vous et on croit que Dieu va vous guérir. Laisse Dieu faire ce qu'il a à faire dans ta vie.